Il est midi, ici à Paris et à Kiev. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, une attaque massive de la Russie contre l'Ukraine cette nuit. Une pluie de missiles et de drones s'est abattue sur la capitale dans des quartiers résidentiels, selon Kiev, faisant au moins 8 morts et des dizaines de blessés. Moscou assure avoir visé des bâtiments de l'industrie militaire. Donald Trump veut obtenir un accord de cessez-le-feu, coûte que coûte. Une foule de fidèles continue d'affluer au Vatican, place Saint-Pierre, pour se recueillir devant la dépouille du pape François, exposée dans la basilique jusqu'à demain soir. Samedi, ses obsèques réuniront aussi des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées. Enfin, les Haïtiens des États-Unis ont peur d'un retour forcé dans leur pays face aux menaces de l'administration Trump. Certains tentent de s'exiler au Canada, mais seuls ceux qui ont de la famille proche résidant au Canada peuvent rester. Reportage à suivre. Donald Trump s'impatiente de plus en plus. Le président américain veut à tout prix arracher un accord entre Kiev et Moscou. Et pour lui, pas de doute, c'est l'Ukraine qui traîne des pieds. Kiev est accusé de saboter un possible accord avec la Russie. Il faut dire que le pays a beaucoup à perdre dans les négociations engagées. Washington veut notamment convaincre Kiev qu'il faut accepter des concessions territoriales et notamment entériner la perte de la Crimée conquise en 2014 par Moscou. Des concessions inacceptables qui seraient vécues comme une reddition alors que l'agression russe se poursuit, s'intensifie même. La nuit dernière, une attaque de drones sur Kiev a été particulièrement meurtrière. Au moins 8 personnes ont été tuées, bilan révisé, 70 autres blessés. À Kiev, la correspondance de Cerise Sudry.
Le tweet publié en début de soirée est mesuré. À la suite de la réunion à Londres avec les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, Volodymyr Zelensky se félicite que la diplomatie soit déclenchée. Mais il a joint à son tweet une déclaration faite par les États-Unis en 2018, au temps du premier mandat de Donald Trump, indiquant que les États-Unis n'accepteraient pas l'annexion de la Crimée par Moscou. Une réponse à ces dernières 48 heures pendant lesquelles Donald Trump et ses proches accusaient l'Ukraine de ne pas jouer le jeu et de ne pas vouloir la paix en indiquant refuser reconnaître l'annexion de la Crimée, disant que celle-ci était perdue depuis de nombreuses années. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky répète régulièrement sa position, pas question d'entamer des discussions avec la Russie sans cessez-le-feu préalable, mais depuis la fin de l'éphémère cessez-le-feu de Pâques il y a quelques jours, plusieurs attaques meurtrières ont eu lieu dans le pays, dont celle de cette nuit sur la capitale. 5 districts ont été touchés et des bâtiments résidentiels endommagés. Cerise Sudry-Ledoux, Kyiv, RFI.
Et après cette attaque massive la nuit dernière, la Russie a tiré au total 70 missiles et 145 drones sur l'Ukraine. Le président Zelensky, en visite en Afrique du Sud, a décidé d'écourter son déplacement pour regagner Kiev au plus vite. Les fidèles continuent d'affluer au Vatican jusqu'à demain soir. La dépouille de François est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Près de 50 000 personnes se sont déjà recueillies devant son cercueil. Un gros dispositif de sécurité est en place pour filtrer la foule aux abords du Vatican, ce qui ne décourage pas les fidèles qui se pressent encore en masse aujourd'hui, place Saint-Pierre. Des mesures de sécurité qui seront encore renforcées samedi, jour des obsèques du pape. Les proches et les anciens collaborateurs de François ont aussi fait le déplacement pour ce dernier hommage. Parmi eux, Roberto D'Abusti, qui fut l'un de ses proches conseillers dans les années 90. Écoutez son témoignage recueilli à Rome par nos envoyés spéciaux, Jadel Koury et Daniel Valo.
C'est en 1994 que Roberto D'Abusti fait la connaissance de Jorge Mario Bergoglio. Bien loin de se douter que l'évêque auxiliaire de Buenos Aires, avec lequel il travaillera durant 7 ans, deviendra plus tard le pape François.
J'étais chargé des communiqués de presse, de la transcription de ses homélies. À l'époque, on communiquait par fax. Après, on est passé au mail, mais au début, c'était le fax. C'est lui qui est allé acheter la machine et qui l'a mise dans mon bureau.
Roberto D'Abusti se souvient d'un homme simple et proche de ses collaborateurs. Un homme capable de décisions difficiles, mais aussi doué d'un sens inné de la communication.
Je dis toujours qu'il communiquait d'abord par le silence, ensuite par les gestes et enfin par les paroles. Et ses silences et ses gestes disaient mille fois plus que des mots.
Resté à Buenos Aires pour y poursuivre sa carrière, Roberto D'Agustín n'accompagne pas François à Rome lorsqu'il devient pape. Mais il reste en relation avec lui jusqu'au dernier moment.
Vendredi dernier, il m'a envoyé un message qu'il ne pouvait écrire lui-même et il s'en est excusé. Il m'a envoyé une bénédiction pour moi et ma famille.
Ce samedi, lors des funérailles, c'est par une prière que Roberto D'Agustín répondra, faute d'avoir pu le faire à temps, à ce dernier message. Jade El Khoury, Daniel Valo, Rome, RFI.
Il n'y a pas de négociation. Pékin est formel. Aucune discussion n'est en cours avec Washington sur le dossier commercial. Un démenti qui intervient alors que Donald Trump avait suggéré qu'un accord était en vue entre les États-Unis et la Chine. Le bras de fer continue entre les deux puissances, même si Donald Trump a promis de réviser les surtaxes imposées à Pékin, jugées trop élevées après les avoir lui-même augmentées à 145%. Autre dossier prioritaire pour l'administration Trump, l'immigration. Beaucoup de communautés s'inquiètent des promesses d'expulsion de masse, comme les Haïtiens exilés pour fuir la violence qui gangrène leur pays et qui bénéficient jusqu'ici d'un statut temporaire aux États-Unis. Washington a promis de mettre un terme à ce statut particulier. Et même si cette décision a été suspendue par la justice, la crainte d'un retour forcé a suffi à pousser beaucoup d'Haïtiens à tenter de s'exiler de nouveau, direction le Canada. À Montréal, Nafi Alibert.
En 20 jours, plus de 2000 demandeurs d'asile ont franchi la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle. Ils sont quasiment 4 fois plus nombreux qu'en janvier à converger vers ce point de passage au Québec. La plupart sont haïtiens.
Nous venons chercher refuge.
Ils fuient les États-Unis, hantés par la peur d'un retour forcé en Haïti.
C'est nous tous qui avons reçu cette lettre. On nous a dit que nous devions laisser le pays avant le 13 ou bien le 24 de ce mois, avril. Ça a tellement fait peur.
Et à Montréal, leur arrivée met sous pression la maison d'Haïti qui les accompagne.
Ces dernières semaines, nous, on reçoit à peu près 15 à 20 personnes par jour.
C'est pas négligeable.
Marjorie Villefranche est la directrice de l'organisme.
On n'a pas de financement pour les aider, pour les soutenir, ni pour quoi que ce soit.
Et certains Haïtiens déjà établis, comme Peggy Flore, sont dépassés.
J'ai des cousins qui ont sollicité mon soutien pour les aider, mais je ne peux pas.
En cause, l'entente sur les tiers pays sûrs entre Ottawa et Washington. Seuls ceux qui ont de la famille, mais de la famille proche, comme des frères ou des sœurs au Canada, peuvent rester. Pour les autres, c'est un retour forcé. Plus de 1200 demandeurs d'asile ont ainsi été renvoyés aux États-Unis depuis le début de l'année. Nafia Libère, Montréal, RFI.
À Madagascar, Emmanuel Macron a promis de créer les conditions du pardon de la colonisation. Une séquence mémorielle pour le président français dans l'île de l'océan Indien, ancienne colonie française. Une commission d'historiens des deux pays pourrait être mise en place. Par ailleurs, Emmanuel Macron a défendu l'intégration de Mayotte, département français, à la commission de l'océan Indien, alors que les Comores s'opposent à son adhésion. En France, c'est un coup de massue. ArcelorMittal a annoncé un vaste plan de suppression de postes. Le numéro 2 mondial de la sidérurgie justifie sa décision par la crise de l'acier en Europe. Les salariés sont sous le choc. Nicolas Fellmann.
En particulier sur le site le plus touché, Dunkerque, dans le nord de la France, 177 emplois menacés. Gaëtan Lecoq, secrétaire général CGT de l'acierie.
Là, on est en train de nous casser le bras et puis on va nous casser les deux pattes. Si on veut tuer nos usines, on ne peut pas s'y prendre mieux. Voilà. Donc, on supprime des emplois dans la maintenance, dans des fonctions qui sont là pour la sûreté industrielle de nos sites, ce qu'on redoutait est en train de se produire.
La direction d'ArcelorMittal explique ses suppressions de postes par la crise de l'acier en Europe. La demande sur le continent a baissé de 20% en 5 ans et les importations d'acier sont en hausse. Ce plan de restructuration a donc pour but, dit le groupe, d'assurer sa compétitivité future. Inacceptable, répond l'élu CGT.
Tout ça, c'est de la mascarade. On n'est pas une société déficitaire si on produit en France. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent quitter la France, l'Europe, pour faire leur acier en Inde et au Brésil, où les normes environnementales et sociales sont beaucoup moins importantes que les normes françaises et européennes.
ArcelorMittal, numéro 2 mondial de l'acier, doit annoncer ses résultats pour le premier trimestre la semaine prochaine. En attendant, les syndicats promettent de rester mobilisés.
Voilà, c'est la fin de ce journal et tout de suite 8 milliards de voisins avec vous Emmanuel Bastide, bonjour.
Bonjour et merci Karine Bellicha. 8 milliards de voisins, c'est parti.